France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est donc le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Comment financer une économie de la défense? Depuis ce matin, l'exécutif est réuni à l'Elysée pour chercher des pistes destinées à augmenter le budget de l'armée française. On se demandera pourquoi le gouvernement israélien a choisi d'inviter Marion Maréchal et Jordan Bardella à une conférence sur l'antisémitisme. On reviendra également sur la dernière polémique entourant LFI, accusée justement d'antisémitisme. Par ailleurs, et 5 mois après avoir déjà cédé sa marque grand public Doliprane à un fonds américain, le géant pharmaceutique français Sanofi s'apprête cette fois-ci à se séparer de son usine de fabrication de l'aspégique. Enfin, l'augmentation du nombre d'étudiants en France a-t-il fait baisser ou non les inégalités? On posera la question à notre invité. La France doit-elle s'engager davantage dans la guerre en Ukraine? Il y a un an, quasiment jour pour jour, Emmanuel Macron s'était invité à la télévision pour s'exprimer sur les enjeux d'un tel soutien. Alors ce soir, le président déjà omniprésent au point que certains l'accusent même de surjouer la dramatisation, voire d'en profiter pour s'immiscer à nouveau dans les débats de politique intérieure, ne s'adressera pas aux Français. Sa précédente allocution solennelle date d'il y a à peine une semaine. En revanche, ce matin, le chef de l'État réunissait à l'Élysée le Premier ministre, François Bayrou, et 7 autres membres du gouvernement pour évoquer avec eux les moyens alloués à la défense. Car la facture d'un possible réarmement s'annonce salée et nombreux sont ceux qui risquent de faire la fine bouche au moment de trouver des financements, avec la crainte à terme que les dépenses sociales ne soient sacrifiées sur l'autel de la défense. Valentin Gris, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors le risque existe-t-il que l'effort de défense ne serve de prétexte pour forcer l'adoption de mesures d'austérité impopulaires? Pour l'heure, c'est vrai qu'on a du mal à envisager les pistes de financement possibles en pleine crise des déficits et sans augmenter les impôts.
Oui, Emmanuel Macron navigue en posture gaullienne sur le dossier du réarmement, définissant les besoins, et je le cite, et actant simplement que ni l'impôt ni la dette ne seront des réponses. Pour que l'intendance financière suive, la piste principale est donc aujourd'hui l'épargne privée sous toutes ses formes. L'option d'abord des 600 milliards d'euros placés sur les livrets A, elle est désormais exclue, à juste titre, car cette épargne finance déjà des politiques publiques, comme celle du logement social. Vient donc ensuite la priorité actuelle, les enveloppes non sécurisées, plan épargne retraite ou assurance vie, respectivement 120 et 2000 milliards d'euros. Banquiers et assureurs seront à Bercy jeudi prochain pour discuter d'un nouveau placement, à même de financer les entreprises privées. Mais il reste 2 angles morts. 1. Il faut que ces placements rapportent plus que d'autres actifs pour que les Français s'y projettent. Pas certain que le patriotisme suffise. 2. Les entreprises de la défense vivent essentiellement des commandes publiques et c'est bien celles-ci qui font défaut depuis février 2022. La loi de programmation militaire a bien augmenté de 40% les crédits annuels de la défense jusqu'en 2030, mais la France ne sera qu'à 2% de son PIB lorsqu'il en faut 3. L'exécutif ne pourra donc pas s'abstenir longtemps d'une réflexion sur des mesures budgétaires, ce à moins que Bruxelles et la BCE ne s'emparent de la question. Et l'histoire économique montre que ce sont souvent les politiques monétaires qui ont soutenu l'effort de guerre.
Merci Valentin Gris. Alors tout ce débat autour du budget de la défense s'inscrit dans un contexte particulier et même un changement majeur de paradigme, le désalignement des États-Unis avec l'Europe, lequel vient rappeler de la plus brutale des manières à quel point le manque d'autonomie stratégique peut être dommageable. Et c'est ainsi qu'hier les ministres de la défense des principales puissances militaires européennes réunies à Paris ont signé leur souhait de se mettre en ordre de bataille et de dépasser les simples déclarations d'intention pour mettre en œuvre des objectif concret, en clair, combler le vide laissé par les États-Unis. En attendant, et après avoir amené l'Ukraine à la table des négociations, les États-Unis justement se retrouvent désormais face à un défi de taille, convaincre la Russie de l'intérêt d'un cessez-le-feu temporaire. Alors, des émissaires américains seraient en route actuellement pour Moscou. Hier déjà, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis s'est entretenu avec son homologue russe. Pour autant, le Kremlin n'a toujours pas fait connaître sa position. Tout juste un conseiller a-t-il précisé ce matin qu'un accord en Ukraine devra respecter les intérêts de la Russie. Vladimir Poutine pourrait s'exprimer, dit-on, dans la journée. Mais c'est vrai que les images hier à la télévision du maître du Kremlin au front, vêtu d'un uniforme militaire, en ont laissé plus d'un sceptique, même si un premier préalable à la négociation pourrait être sur le point de se réaliser. Le retrait des forces ukrainiennes de la région russe de Koursk, dont elles avaient pris le contrôle. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
En direct de Moscou, 7 mois après leur incursion éclair, la présence des troupes de Kiev sur le territoire russe ne serait plus qu'une question de jours.
Oui, il ne resterait que 5 localités encore occupées dans la région de Koursk, d'après l'armée russe, qui affirme que la libération totale de cette région n'est pas loin, et surtout qu'elle poursuit son offensive en territoire ukrainien pour installer une zone tampon, comme l'a exigé hier, habillé en treillis militaire, effectivement, Vladimir Poutine devant ses officiers à Koursk. Les Ukrainiens, eux, affirment qu'ils se retirent volontairement, mais bon, ce qui est à peu près certain, c'est que c'est la fin de cette opération débutée le 6 août dernier, une aventure militaire audacieuse qui avait d'abord montré les vulnérabilités de la Russie, l'armée ukrainienne s'emparant très vite de 1000 km² de territoire, arrivant à une quarantaine de kilomètres seulement de la centrale nucléaire de Koursk, causant des pertes militaires, civiles à la Russie, sociales également. Il y a à peu près 150 000 personnes qui ont dû fuir leur logement dans le secteur. L'armée russe a semblé pendant de longs mois désemparée face à cette offensive qui avait probablement deux objectifs. Un, obliger les Russes à dégarnir le front pour défendre leur territoire. Deux, éventuellement contrôler une partie de territoire russe pour avoir quelque chose à échanger dans le cadre de négociations. Mais à l'arrivée, Moscou n'a pas déplacé de troupes, elle a plutôt reçu le renfort de Nord-Coréens, elle a envoyé des réserves, des conscrits aussi. Le pouvoir russe a étouffé, comme d'habitude, la colère de la population, des réfugiés, de ceux dont les parents étaient disparus. Et puis petit à petit, l'armée russe, malgré de lourdes pertes, a repris du territoire. De 1000 km² en septembre, on était à 400 début février. Et le 10 février, il y a plus d'un mois maintenant, donc elle a lancé une offensive qui l'a amenée jusqu'à cette avance aujourd'hui.
Merci Sylvain Tronchet en direct de Moscou.
Difficile d'imaginer une catastrophe d'une plus grande ampleur encore.
Et pourtant, l'arrêt il y a 11 jours de l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza a fait renaître chez les habitants de l'enclave dévastée la peur du retour de la famine. Les stocks s'épuisent à vue d'œil et se nourrir est redevenu un défi quotidien, sans compter que sans fioul ni électricité, les stations d'épuration des eaux usées sont dans l'incapacité de fonctionner, de sorte que la soif aussi est devenue la norme. Et puis à cela s'ajoute évidemment l'incertitude sur les négociations de la trêve et la transition vers sa deuxième phase qui fait craindre un retour de la guerre. Sur le chemin de Jérusalem, Jordan Bardella et Marion Maréchal ont été invités par le gouvernement israélien à intervenir fin mars à la conférence internationale de la lutte contre l'antisémitisme. Autant dire une première pour un dirigeant du front devenu Rassemblement National et une première aussi pour un membre de la famille Le Pen dont le père fondateur du parti d'extrême droite a notamment été condamné, faut-il le rappeler, pour ses propos sur les chambres à gaz de la Seconde Guerre mondiale qualifiées de détails de l'histoire. Alors, c'est vrai que dans sa stratégie de dédiabolisation, et notamment depuis les attaques du 7 octobre perpétrées par les terroristes du Hamas, le parti le péniste s'est auto-proclamé défenseur des juifs français, ce que semble elle-même acter au mépris de l'histoire les autorités israéliennes. Mais pourquoi un tel rapprochement? Faut-il y voir une sorte d'amalgame des extrêmes droites, étant entendu que le gouvernement de Benjamin Netanyahou doit aujourd'hui sa survie politique à des figures sulfureuses ultra-nationalistes? Élément de réponse depuis Jérusalem, signé Thibault Lefebvre.
Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères israélien qui date du 25 février dernier, il est clairement demandé aux diplomates et aux ambassadeurs d'établir ou de maintenir des contacts avec les partis d'extrême droite de 3 pays européens, la Suède, l'Espagne et donc la France. Alors pourquoi ces États et pas d'autres? Sur quels critères ont-ils été choisis? Élément de réponse avec le politologue Emmanuel Navone.
Il y a aujourd'hui une politique qui consiste à mettre à jour les tendances politiques des partis qualifiés d'extrême droite en Europe, parce que les partis en question reconnaissent le rôle de leurs gouvernements respectifs dans la collaboration avec l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Israël n'entame aucun dialogue avec l'AFD en Allemagne et l'AFD en Autriche, parce que eux restent avec des propos plus qu'ambigus sur la Shoah. Des gens comme Jordan Bardella et Marion Maréchal ne sont pas des antisémites. C'est la signification aussi de cette invitation.
Invitation à l'initiative du ministre de la Diaspora, le très clivant Amichai Chikli, qui avait déjà rencontré Jordan Bardella et qui appartient au parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou, le Likoud, qui depuis février est membre observateur du Bloc des Patriotes pour l'Europe au Parlement de l'UE, une alliance des droites extrêmes dirigée par un certain Jordan Bardella.
Eux sont accusés d'antisémitisme, eux ce sont les insoumis.
Ce n'est pas la première fois que le mouvement mélenchoniste essuie de telles critiques, en particulier pour son soutien aux Palestiniens dans la guerre à Gaza. Cette fois-ci, la cause vient directement de la campagne de communication de LFI pour la marche contre l'extrême droite prévue le 22 mars prochain. Plus exactement, une affiche sur laquelle apparaît le visage de l'animateur télé Cyril Hanouna, déformé par un rictus haineux, tout en reprenant les codes de l'imagerie nazie des années 40. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors l'image a été publiée sur le compte X, ex-Twitter de LFI, avant d'être finalement retirée. Toujours est-il que Cyril Hanouna a annoncé son intention de porter plainte.
Cyril Hanouna, animateur de radio et de télévision, accordant une place croissante dans ses émissions aux invités d'extrême droite et ou complotistes, fustigeant régulièrement la France insoumise. C'est d'ailleurs en grande partie à cause de ces débordements que l'ARCOM a retiré sa fréquence à la chaîne C8, propriété du groupe Bolloré. Cyril Hanouna s'en prend à LFI, LFI s'en prend à Cyril Hanouna, sauf que la caricature mise en ligne par le parti de Jean-Luc Mélenchon indigne une partie de la classe politique à droite et à l'extrême droite. Indignation également du côté de la communauté juive. Selon l'Union des étudiants juifs de France, 1000 autres images auraient pu représenter l'extrême droite. LFI a choisi un juif et lui a fait un nez crochu. Le président du CRIF parle d'une iconographie typiquement antisémite. Même critique de la part de la LICRA. L'écrivain Johann Sfar met en parallèle cette affiche avec celle placardée sur les murs de Paris sous Pétain. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, invité ce matin chez nos confrères de France Inter, c'est un procès d'intention.
Nous ne sommes pas antisémites. Par pitié, lâchez-nous. Occupez-vous de ce qu'on raconte vraiment, de ce qu'on dit vraiment, de ce qu'on propose. Dites-nous, vous vous trompez, mais arrêtez avec ce cirque. Des antisémites, et puis les caricatures, le nez trop long, les cheveux sont trop courts, enfin tout ça n'a aucun sens.
De son côté, le député LFI Éric Coquerel assure que cette affiche finalement retirée ne reprend pas les codes culturels de l'antisémitisme, mais il reconnaît tout de même une maladresse sur la forme.
Merci Antoine Marette.
Plus que quelques heures pour inscrire ses vœux sur Parcoursup.
Oui, les futurs bacheliers ont jusqu'à minuit ce soir pour soumettre leur choix de formation sur la plateforme de préinscription en première année de l'enseignement supérieur des lycéens donc, mais aussi des étudiants en réorientation, des personnes en reprise d'études ou bien encore des postulants issus d'une scolarité étrangère. Bref, une myriade de candidats au profil diversifié et qui s'élevait l'an dernier à près d'1 million, un chiffre qui atteste de la massification aujourd'hui de l'accès à l'enseignement supérieur. Pour autant, est-ce que l'augmentation du nombre d'étudiants a fait baisser les inégalités? En clair, est-ce que la promesse d'une élévation sociale généralisée a été tenue? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Tristan Poulaouec, maître de conférence en sociologie à l'Université de Nantes et co-auteur en 2022 d'un ouvrage intitulé « L'université qui vient » paru chez Raison d'agir. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Depuis 2008, le nombre d'étudiants en France a augmenté de moitié. Sait-on pourquoi? Est-ce que cette hausse découle directement d'une suite de choix strictement politiques, quels que soient d'ailleurs les gouvernements de gauche et de droite? Et si oui, avec quel objectif?
Alors une part de l'explication renvoie à la natalité. Il y a en effet un mini baby-boom au tournant des années 2000 jusqu'à 2011-2012. Mais l'essentiel n'est pas là. Cette croissance de l'enseignement supérieur, elle a été voulue. En effet, en 1989, la loi d'orientation pour l'école de Lionel Jospin pose comme objectif 80% d'une classe d'âge au niveau du bac. La loi Fillon, quelques années plus tard, élève l'objectif. On est à 50% diplômés de l'enseignement supérieur dans une génération. Et la Stranes, en 2015, élève encore l'objectif à 60% de diplômés de l'enseignement supérieur. Donc en effet, c'est un objectif qui a été voulu, quels que soient les gouvernements, il y a une sorte de consensus politique.
Lorsqu'on rapporte cette augmentation, donc très nette, du nombre d'étudiants à d'autres phénomènes, comme par exemple les difficultés d'insertion des jeunes diplômés, la persistance du chômage chez les jeunes, la baisse du niveau moyen des élèves constatés tout au long du parcours scolaire, on peut malgré tout s'interroger, est-ce que les bons chiffres donc de cette accession plus large des élèves aux études supérieures ne constituent pas au fond un succès en trompe-l'œil?
Alors vous savez, la première déception, elle est pour les étudiants issus des milieux populaires. Les dernières données du ministère indiquent que les trois quarts des bacheliers, enfants d'ouvriers, enfants d'employés, espèrent au moins un bac plus 3. Et quelques années plus tard, c'est seulement un tiers des enfants d'ouvriers qui obtiennent ce niveau bac plus 3 et la moitié des enfants d'employés, alors que les enfants de cadre, haut la main, à trois quarts, obtiennent ce diplôme de niveau bac plus 3. Donc effectivement, il y a des déceptions pour ceux qui étaient les plus en attente de diplôme, puisque dans leur famille, ils avaient moins d'études supérieures.
Est-ce que cette plus forte aspiration donc d'une partie de la population malgré tout à poursuivre des études supérieures, et on l'imagine l'augmentation du nombre de diplômés, ne participe pas à une forme de dévaluation du coût de ces mêmes diplômes?
Alors, la question, elle est débattue. En effet, il y a plusieurs travaux sur ça. Je crois qu'il faut vraiment prendre en compte les deux parties, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de diplômes, mais aussi les difficultés rencontrées sur le marché du travail. Tout n'est pas explicable par l'augmentation du nombre de diplômés. Il y a aussi les transformations du marché de l'emploi qui ont leur rôle propre. Et donc, par exemple, les diplômés de l'université, ils s'insèrent aujourd'hui moins facilement dans l'emploi public, qui était leur débouché principal, parce que cet emploi public, il a été revu à la baisse.
Concrètement, quel rôle joue cette fois-ci la plateforme Parcoursup donc dans toutes ces dynamiques que vous venez de nous décrire? On sait déjà combien les écarts scolaires se creusent avant le bac. Est-ce que la plateforme Parcoursup n'est pas finalement le symbole d'un régime aujourd'hui de plus en plus sélectif?
On peut dire que Parcoursup n'a pas rempli ses promesses. Il y a à peu près le même taux d'échec en licence en 2018 et en 2023. La seule période où ce taux a fortement baissé, c'est pendant la crise sanitaire, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de Parcoursup. Donc, en effet, on est encore en recherche d'un système d'enseignement scolaire qui permette à tous les bacheliers de faire des choix d'études en connaissance de cause et correspondant à leur projet.
On a bien compris que la démocratisation des études supérieures n'a pas résolu donc les inégalités d'accès au savoir, à l'emploi. Malgré tout, est-ce que cette évolution n'a pas eu des effets bénéfiques?
Bien sûr. Je crois que les principaux intéressés, c'est les jeunes qui arrivent diplômés sur le marché du travail. Ils ne regrettent pas d'avoir étudié davantage que leurs parents. Le monde est quand même complexe. On a besoin de gens qui soient mieux formés. Et voilà, tout n'est pas sombre. Et puis, on arrive dans une conjoncture où le marché du travail est vieillissant. Le taux de chômage a quand même plutôt baissé ces dernières années. Donc, la difficulté, c'est pas tellement un emploi, c'est la qualité de l'emploi.
C'est bien noté. Merci Tristan Poulaouec, donc maître de conférence en sociologie à l'Université de Nantes, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre du dernier ouvrage dont vous êtes le co-auteur, L'Université qui vient, paru en 2022 chez Raison d'agir. Et merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
Après le Doliprane, l'Aspégic serait sur le point de sortir du giron de Sanofi.
Oui, 5 mois après les remous suscités par la cession de sa marque grand public, le géant pharmaceutique français poursuit l'externalisation de ses produits sans ordonnance. La semaine dernière, Sanofi a en effet annoncé qu'il allait se séparer de son usine d'Amélie qui fabrique notamment donc l'aspirine, ou quand le groupe poursuit en réalité le recentrage de sa stratégie sur l'innovation. C'est du moins l'analyse de Nathalie Jiménez, docteur en gestion et experte consultante auprès des industriels pharmaceutiques. Elle répond à Tara Schlegel.
Souvenez-vous, pendant la crise Covid, on a même entendu parler, il y avait des détracteurs qui disaient que Sanofi, finalement, n'investissait pas assez dans la recherche. Donc là, je pense que c'est un vrai repositionnement de l'entreprise. Et quand vous voulez devenir un vrai leader en immunologie, enfin, ils ont une ambition, je pense, d'amener un portefeuille de traitements et de vaccins avec 3 à 5 lancements attendus chaque année à partir de 2026. Si vous voulez, ça couvre un large panel de domaines thérapeutiques comme l'immuno-inflammation, la transplantation, le diabète, l'oncologie, la vaccinologie. C'est pour vous dire l'ambition qui est portée. Donc, quand vous avez cette ambition en termes d'innovation, bien oui, vous devez gérer vos risques. Et il n'est pas étonnant que l'entreprise souhaite se séparer progressivement de son activité de produits matures qui sont peu chers, destiné à une plus grande population. Et quand on observe en fait le marché de l'industrie pharmaceutique, on voit bien qu'il y a des métiers qui sont en train de se distinguer. On a donc le marché de l'innovation, dans lequel en fait Sanofi a envie de se positionner, comme je viens de le dire. Et puis vous avez une industrie qui fabrique des médicaments, ce qu'on appelle du coup des façonniers. Ce sont des sous-traitants pharmaceutiques. Et eux, leur métier, c'est de fabriquer et de conditionner des médicaments. On est vraiment dans une activité industrielle. Et là, par exemple, Astrea Pharma, qui travaille déjà avec Sanofi depuis longtemps, eh bien, c'est à ce sous-traitant et à ce façonnier que l'usine va être vendue.
Voilà, Nathalie Jiménez, donc docteur en gestion, experte consultante auprès des industriels pharmaceutiques. Elle répondait à Tarach Legal. Quand la justice ordonne à l'État de renforcer son action contre les pollutions aux nitrates, ce matin, le tribunal administratif de Rennes, saisi de deux recours, a reconnu que les mesures mises en œuvre par le préfet de la région Bretagne sont insuffisantes pour lutter contre les échouages d'algues vertes sur le littoral breton. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Les nuages continueront de dominer sur la plupart des régions, accompagnés parfois d'averses sur la moitié nord et de précipitations orageuses des Pyrénées à la Côte d'Azur jusqu'en Corse. Quant aux températures, elles seront comprises entre 5 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.